sur cette région par rapport à l'indice de perception de la corruption. La nouvelle, c'est celle du Ghana, qui est un pays qui a, sur le lot, nous dirons, au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, a toujours eu une note qui est parmi les meilleures, tout en étant entendu que la moyenne africaine reste en deçà de la moyenne, qui a régressé quand même substantiellement. Et c'est ça la grande nouvelle. Mais aussi, du côté positif, c'est que le Cap-Vert, qui a toujours été parmi les pays les mieux cotés sur cette enquête, qui a encore apprécié sa prestation ou sa note sur l'indice de perception de la corruption.
Dans votre région, toujours Afrique de l'Ouest, quels sont les pays qui seraient les plus mauvais élèves, en quelque sorte?
Les plus mauvais élèves, on a la Guinée-Bissau, on a le Ghana a régressé, mais il n'est pas forcément le plus mauvais de tous. Mais nous avons aussi des pays comme la Gambie. Peut-être ce sont ceux qui sont les plus au bas, donc il y a la Gambie, il y a le Togo, mais généralement parlant, nous disons que la sous-région de l'Afrique de l'Ouest n'a pas une bonne note ou une bonne perception de la corruption parce que la majorité des pays sur les 15 n'ont pas une note au-dessus de la moyenne, voire même les 40%, ce qui nous indique que la corruption demeure un défi majeur et elle demeure systémique et endémique dans la sous-région.
Et donc vous faites un rapprochement dans ce rapport en particulier sur les politiciens populistes.
Oui, les politiciens populistes, ça c'est à l'échelle mondiale parce que nous avons observé au courant de ces dernières années que il y a un sentiment d'exaspération au niveau des populations que nous lions aussi à un déficit de gouvernance qui s'apparente à des pratiques de corruption aussi. Et il y a des leaders politiques qui s'en servent pour avancer leur pensée, idéologie populiste que nous estimons ne pas être non plus la réponse aux vrais défis en jeu.
Pour revenir sur l'Afrique, mais en dehors de votre région, on a des pays qui sont très mal placés, à commencer par la Somalie, qui est vraiment le dernier sur la liste.
Oui, la Somalie est dernier sur la liste et cela a été le cas au courant de ces dernières années. On ne peut pas tenir les dirigeants comptables parce que l'État est vraiment dans un état très fragile et il est au bord de la faillite en termes de normes de gouvernance.
Est-ce que l'Afrique en général est vraiment très mal placée encore sur ce nouveau rapport?
Hélas, oui, ça n'a pas changé. La dernière édition, la moyenne pour l'Afrique subsaharienne, surtout si je dois préciser, était de 33 sur 100, la note. Et pour l'édition actuelle, il s'agit de 31 sur 100, donc ça veut dire que bien qu'on ne peut pas considérer que c'est un changement majeur, ça n'a pas évolué dans le sens positif. Ça indique que beaucoup d'efforts restent à fournir, surtout du côté des décideurs pour que toutes ces déclarations qui sont faites, surtout si on observe les élections qui se sont passées en 2016, dans la plupart des pays, je parlerai du Bénin, on a le Ghana, on a l'Afrique du Sud qui a eu des élections municipales. La plupart de ces pays qui ont eu des élections, la lutte contre la corruption était au centre des débats, que ce soit par rapport à l'accès aux services de base sociaux ou que ce soit dans la gestion des grands contrats de construction d'infrastructures. Mais dans la gestion de ces marchés publics, les normes de transparence ne sont pas toujours de mise, ce qui laisse libre cours à ceux qui voudraient s'impliquer dans des pratiques non éthiques de corruption d'avoir des beaux jours devant eux.
La conclusion de votre rapport, est-ce que c'est finalement que la corruption a empiré dans le monde?
Oui, la corruption a empiré dans le monde, mais avec nuance dans le fait que ce qui nous réconforte est le fait qu'il y a de plus en plus de citoyens, de groupes de citoyens, et nous dirons des composantes des différentes sociétés dans le pays qui se lèvent contre la corruption, et soit par des voies démocratiques, nous voyons des changements de régime, qui, en filigrane, vous avez un message des citoyens ou des électeurs qui veulent un changement décisif en termes de lutte contre la corruption.
Alors, pour lutter contre la corruption, vous mettez cela en exergue, comme d'habitude, il faut des systèmes judiciaires indépendants, et c'est là le problème, en fait. La plupart ne sont pas vraiment indépendants, c'est ça?
Absolument, parce que le système judiciaire est le socle, si vous voulez, du maintien de l'état de droit. En l'absence d'une justice indépendante, quand nous avons des justices inféodées au pouvoir des pays, et cela empêche que les dirigeants ou les mouvances présidentielles dans les pays soient tenus comptables de leurs actes en cas de malversation. Et alors, il faut une justice indépendante, mais il faut aussi que les libertés publiques soient respectées, parce que la justice, par moment, n'agit que sur base des dénonciations qui font l'objet d'enquêtes et qui, enfin, aboutissent à des poursuites où intervient la justice. Donc, c'est un travail de toutes ces parties. Il faut que la presse ait sa liberté, les citoyens qu'ils aient l'occasion de suivre, de participer à la prise de décision et, le cas échéant, tenir leurs dirigeants comptables des actes qu'ils posent, pas seulement au moment des élections où on observe beaucoup de bonnes promesses dans ce sens-là et un rapprochement, mais que cela soit ancré dans le système de gouvernance de nos pays.